Bonjour Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 28 mars 193, l'Empire romain est mis aux enchères. Au IIe siècle de l'ère chrétienne, l'Empire romain s'étend sur près de 4 millions de kilomètres carrés de l'Écosse au Sahara, de l'Atlantique à l'Euphrate. La ville éternelle est au sommet de sa gloire. Pourtant, le 28 mars 193, l'Empire romain est mis aux enchères. Nerva, Trajan, Adrien, Antoine et Marc Aurèle, ces règnes sont considérés comme exemplaires. Ils marquent au IIe siècle l'apothéose de l'Empire romain. Cependant, Marc Aurèle, cet homme grand et bon, ce philosophe empereur plein de sagesse et d'humilité, commet une tragique erreur. Au lieu d'imiter ses quatre prédécesseurs et de choisir pour lui succéder l'homme le plus qualifié, il opte pour son fils, Commode, dont le biographe livre une description sans compromis. Il était vil, malhonnête, libidineux, grossier et dépravé. Commode gouverne 12 années. Il aurait pu se maintenir au pouvoir plus longtemps s'il n'avait pas offensé la garde prétorienne. Un jour, devant toute la garde assemblée, il pousse le préfet du prétoire dans la piscine impériale, après quoi il le fait danser entièrement nu devant ses concubines et le tue. Le nouveau préfet, Laetus, comprend rapidement la nécessité d'écarter l'empereur. Marcia, la maîtresse de Commode, et Éclectus, son chambellan, participe à sa conspiration. La nuit du Nouvel An 192, ils empoisonnent celui qui se voulait le jeune Hercule. Comme la potion semble agir trop lentement, ils convoquent un lutteur professionnel qui rompt le cou de l'empereur dans son bain. Comme successeur, Laetus choisit un homme de bien, un vénérable et vertueux sénateur nommé Pertinax. Les troupes approuvent le choix de leur préfet, mais grognent dès l'instant où Pertinax les invite à désormais se conduire en soldat. Il veut un retour aux plus anciennes vertus romaines, la discipline et l'austérité. Il vend aux enchères le luxueux mobilier de Commode et son vaste harem bisexuel. Les repas impériaux deviennent extrêmement ascétiques. Les serviteurs du palais pressent les gardes prétoriens de tuer cet obstiné de discipline. Ainsi, le 28 mars 193, après seulement 87 jours de règne, Laetus et ses soldats tuent Pertinax et ramènent sa tête au camp. Mais Laetus n'a pas la moindre idée du successeur. Des soldats courent dans les rues de Rome en criant que le titre impérial est en vente aux plus offrants. Cette agitation est propice aux opportunistes. Le premier candidat à se présenter est Sulpicianus, le praefetus orbi, équivalent du maire de Rome. Il fait de toute évidence bonne impression aux soldats. C'est alors que Didius Iulianus, l'homme le plus riche de la capitale impériale, apparaît accompagné de son gendre Repentius. En approchant des murs de Rome, ils entendent les cris rauques des soldats qui refusent de les laisser entrer. Didius Iulianus crie en vain aux gardes son identité. Un plan ingénieux lui vient alors à l'esprit. Il fait hisser des pancartes sur les murs pour transmettre son message. Il y proclame son intention de faire revivre la mémoire de Commode. C'est un véritable trait de génie. Aussitôt, une échelle est placée contre la muraille pour permettre l'ascension du corpulent millionnaire. La confrontation entre Didius Iulianus et Sulpicianus débute alors. Tandis que chacun augmente son offre, le monde oscille. Au moment où les enchères se stabilisent à 23 000 sesterces, Didius Iulianus frappe un grand coup. Il crie 25 000. Le tour est joué. Didius Iulianus est empereur. Il est porté en triomphe à travers les rues de Rome. le Sénat doit encore ratifier cette désignation. Une séance est convoquée le soir même. Didius Iulianus prononce un discours dans lequel il ne fait aucune allusion à la garde prétorienne qui encercle le Sénat. Entrant au palais impérial, le nouvel empereur tombe sur le corps décapité de Pertinax. Cette vision morbide lui provoque un rire qui s'accentue devant le repas frugal que son défunt prédécesseur n'a même pas achevé. Il ordonne que les restes de la collation soient jetés aux chiens et commande un festin. Le bref règne de Didius Iulianus n'est qu'un très long banquet. Avide de reconnaissance, il donne de nombreux dîners pour les sénateurs, mais rien ne peut adoucir son goût. Le Sénat le hait autant que le peuple. Il règne 70 jours. Le 1er juillet 193, l'armée de Septime Sévère pénètre dans Rome et dépose l'homme qui a acquis l'Empire romain entre l'entrée et le dessert. Nous nous retrouvons dans un instant pour la chronique littéraire Un jour trois livres, mais d'ici là nous allons marquer une pause musicale. C'est Laurent Voulzy qui nous accompagne en chanson avec Le soleil donne.
La même couleur aux gens, la même couleur. aiment le soleil d'or. On sera tous un peu frères, le soleil d'or. Le soleil d'or. De l'or intelligent, le soleil d'or. La même couleur aux gens, même couleur aux gens.
Écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres. Je voudrais commencer par deux très beaux ouvrages publiés par les éditions Gallimard Jeunesse qui nous livrent toujours des ouvrages remarquables. Une nouvelle collection au fil du temps avec pour commencer la Chine. Illustré par Fei, qui est un illustrateur originaire de Pékin, qui travaille dans différents domaines, dont la peinture murale. Et il nous propose de nous promener le long du Grand Canal à la découverte de certaines scènes de l'histoire de la Chine. Nous abordons d'abord le début de la construction de ce long canal qui part de Hangzhou et qui rejoint Pékin. Nous abordons les différentes étapes de l'histoire de la Chine depuis le 5e siècle avant notre ère jusqu'à la période contemporaine, jusqu'à jusqu'au début du XXe siècle, avec même une évocation de la Chine actuelle, avec la métropole de Tianjin en 2020. C'est remarquablement illustré, c'est très didactique. Les textes sont précis sans être trop longs. Et vous avez un glossaire qui accompagne l'ouvrage pour retrouver la définition des termes du vocabulaire historique qui sont ici employés. Et puis, il y a un texte introductif tout à fait essentiel sur l'histoire du Grand Canal. Voilà donc pour la Chine au fil du temps, illustrée par De Fay. Et puis, dans la même collection, vous avez une ville. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une ville européenne, d'une ville marquée par la présence d'un fleuve, et nous voyons au fil du temps son développement de la période préhistorique où ce n'est qu'un vague campement jusqu'à la période actuelle et même une évocation de ce que peut être la ville de demain. Il y a une chronologie très détaillée, il y a là encore un glossaire, c'est remarquablement illustré par Steve Noon, et c'est là encore très didactique, donc je vous recommande chaudement ces deux titres la collection au fil du temps, donc une ville au fil du temps et la Chine au fil du temps. Et puis aux éditions Larousse, la collection Mes premiers classiques, alors c'est recommandé pour des enfants de 8-9 ans, des classes de cours élémentaires deuxième année, c'est un digest de deux œuvres de la littérature britannique, Une aventure de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle et puis Le fantôme de Canterville de Oscar Wilde. Alors on retrouve dans cette même collection Oliver Twist, Le Monde Perdu, ce sont quatre titres qui viennent d'être livrés. Alors c'est très accessible hein, puisque l'œuvre romanesque est particulièrement adaptée aux enfants des cours élémentaires. Il y a une présentation des personnages au début du livre. Et puis, après la lecture, il y a d'abord un lexique, là encore, qui permet de retrouver les termes un peu complexes. Et puis, il y a des questions de compréhension qui permet de vérifier la justesse de la lecture du roman. Là encore, il y a une approche très scolaire par les éditions Larousse, c'est un peu, je dirais, leur marque de fabrique. Donc je vous recommande cette collection, Mes premiers classiques aux éditions Larousse, avec en particulier ces deux titres, Le fantôme de Canterville de Oscar Wilde et Une aventure de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle. Voilà pour cette émission Historama qui touche à sa fin. Je remercie Lucas qui l'a présenté et nous nous séparons avec Laurent Voulzy. Nous écoutons Karine Redinger.
Jolie jeune mariée, rivière, lune de miel à peine commencée. Méfiez-vous des voyageurs, voyez Karine Redinger.
Karine Redinger, j'ai reçu votre lettre à fleurs. Vous devez être endormie, rêveuse de choses qui sont loin de moi peut-être. Alors c'est pas bien. Karine Redinger, Il y a un morceau caché de mon cœur qui est resté quelque part sur un bateau vapeur. Vous étiez mariés depuis 2 heures. Vous laissiez le vent montrer vos jambes en douceur. Et vous m'aviez remarqué parmi les voyageurs. Karine Redinger, arrêtez de m'envoyer des fleurs. J'ai une femme à Paris et vous un gentil mari. Cessons la scène musicale comédie. Votre lune de miel au fil de l'eau, vous veniez le matin très tôt et vive l'amour en bateau. Endormi le petit mari sur le Mississippi, vous étiez quand même un peu gonflé de m'apporter mon café. Oh, Karine Redinger, veuillez oublier ce steamer. Cette petite plaisanterie m'a fait pleurer dans mon lit. Heureusement pas trop longtemps. Ah, ah. Karine Redinger, ne venez pas voir le sacré cœur. Laissez Paris tranquille, vous êtes dangereuse dans cette ville. Un Français c'est souvent sentimental. Vous laissiez le vent montrer vos jambes en douceur. Et vous m'aviez remarqué parmi les voyageurs. Karine Redinger, arrêtez de m'envoyer des fleurs. 10 jours en bateau fou, souvenir, rendez-vous, c'est fini là. From me to you, from me to you. Karine Redinger, y'a déjà quelqu'un dans mon cœur. Cette petite plaisanterie m'a fait pleurer dans mon lit. Cessons la scène musicale comédie. Cette musicale, cessons la scène musicale comédie. Cette musicale, cessons la scène musicale comédie.
Thank you.